Marc et salut les Smart. Bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et qu'on sort. Je suis Raphaël pour un épisode historique puisqu'il s'agit du tout dernier pay-per-view avant WrestleMania 37. Il s'agit de Fastlane 2021 au Tropicana Field Center, Thunderdome de Saint-Pétersbourg, en Russie bien sûr, et je suis avec le plus russe d'entre nous, c'est Papy. Comment ça va Papy?
Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, je réfléchissais mais je suis incapable de dire le moindre mot en russe, da, voilà.
Ah, da, oui bien, mais en fait c'était pas en Russie en fait je crois, hein. il faisait un peu plus chaud que ça. C'est un Saint-Pétersbourg qui est en Floride, et voilà.
Ah, est-ce que je sais parler espagnol, du coup? Je ne saurais dire.
Voilà, ça c'est bien, ça. Très bien. Ben écoute, te voilà lancé pour... c'est ce que je disais, hein, c'est un pay-per-view, mais avec plein d'implications derrière. La Road to WrestleMania, on y est en plein. Est-ce que la route est belle, comme on dit? Est-ce que long is the road? Est-ce que... la dernière ligne droite, la dernière lane, est-ce qu'on a été fast ou pas si fast? On va découvrir ça ensemble, hein. On est prêt
à analyser. On est prêt. J'ai envie de dire qu'il y a eu des arrêts, des redémarrages en trombe ces dernières semaines. Donc, que veut nous réserver le fast lane?
Suspense. Des démarrages en côte, ouais, même on peut dire. Voilà, et peut-être quelques calages aussi, hein, pour le passage de permis. Bien. Papy est avec moi, vous connaissez peut-être les habitudes de Papy, c'est un choix politique fort, il refuse de voir les pré-shows, et moi du coup aussi, donc on n'a pas vu le pré-show, mais on va quand même en parler, d'accord?
Très bien, bon, en tout cas je te félicite de m'avoir rejoint dans ce mouvement.
Voilà, c'est ça. Donc, le pré-show que nous n'avons pas vu, mais heureusement la WWE pense à nous et fait toujours en milieu de pay-per-view un petit résumé sur ce qui s'est passé dans le pré-show. Donc, le pré-show, c'est très simple, c'était Mustafa Ali avec ses copains de Retribution contre Riddle pour le fameux titre US. Haha, les dirt sheets qui disaient que Mustafa Ali allait prendre ce titre US, allait feuder contre Kofi Kingston ou je ne sais pas qui, tout ça, dans sa storyline de revanche. Bon, ben pas du tout, il a perdu. Et surtout, il a tellement perdu qu'il s'est énervé à la fin devant tous ses sbires. Bon, vous me direz, ça fait 20 fois hein, qu'il s'énerve... sur tous ses sbires, il leur dit « Vous êtes que des merdes et des gros nazes !» Alors du coup, il y a Slapjack qui s'en va, et du coup, Mustafa Ali, comme il est très intelligent, il continue d'engueuler ceux qui restent, évidemment, les derniers qui lui sont encore un peu fidèles, non, il continue « Oui, vous êtes vraiment des grosses merdes !» Et du coup, au final, T-Bar et puis A.B14-0, là, je sais plus... Mace, voilà, et ils font un double chokeslam et bim. Et donc voilà, et ben Retribution, comme tu l'as dit sur le Discord, fini en pleine gloire, hein, belle fin de carrière. Après la Undisputed Era, mais quelle année pour les factions légendaires à la WWE.
Ah oui, là c'est magnifique. Je pense qu'on pouvait pas choisir de meilleur endroit pour foutre la fin de Retribution qu'en pré-show, un truc que personne regarde. Voilà, c'est très 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 bien. Vous êtes tombés avec les honneurs, messieurs. Bravo.
Voilà, donc alors très rapidement, qu'est-ce que t'aimerais toi? Qu'il se démasque? Tu veux voir de Dijakovic ou il reste en faction mais sans lui? Tu veux voir des matchs par exemple un peu plus les uns contre les autres ou on tourne la page là?
Moi franchement je serais d'avis de tourner la page complètement après ils peuvent redémarrer totalement, ils peuvent tenter de relancer le truc mais là franchement le groupe il est totalement pourri. Je sais même pas s'ils ont un intérêt à rester dans le main roster, enfin du moins pas tous, parce que Slapjack, qu'est-ce qu'il va faire tout seul quoi, sans masque? Enfin, alors s'ils retentent le coup, pourquoi pas, mais moi je serais d'avis de vraiment tirer un trait sur cette affaire qui rend très triste. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont, enfin, je serais très étonné qu'ils apparaissent à Mania par exemple.
En tant que faction, tu dis?
Bon, en tant que tout court.
Je sais pas.
Franchement là, c'est. Bon, après, on n'a pas une surprise près, mais je vois vraiment pas. Tout. Enfin, voilà, je vois plus. Ouais. Ils avaient déjà pas l'intérêt, puis alors là, maintenant qu'ils n'existent plus.
Ouais, c'est compliqué. Moi, je serais. Enfin, je crois que limite, il faudrait. Ça assumerait pas trop le truc, mais limite, le Raw du lendemain post-mania, là, tu fais monter Dijakovic et tu le présentes en tant que Dijakovic et tu. Passe discrètement sous silence tout ce qu'il a fait pendant un an, mais voilà, tu fais genre comme il y a un nouveau venu, mais parce que c'est le seul que. Enfin, je dis Dijakovic parce que c'est le seul que je connais à peu près sans les masques et que j'ai vu catcher parce que Mace, on l'a pas vu beaucoup Et même Shane Thorne. Parce que
sur la plus vue commentée que Gaethje, donc effectivement, c'est pas ce qu'il vaut. Et Shane Thorne, bah, le problème, c'est qu'il a un physique vraiment ultra quelconque, quoi.
Ouais.
Donc, il y a Miaim qui pourrait peut-être faire quelque chose, mais bon.
Ouais, ça serait bien, ça. Bah, écoute.
Je reste super pex.
Voilà, Mustapha Ali va pouvoir retourner faire du codage vidéo et hacker les caméras de sécurité.
Voilà, hey. Bonne route, mon garçon.
Bravo.
Écrasé sur l'autoroute de WrestleMania.
Ouais, là, pas de bol.
Elle n'est pas traversée.
Bon, ça commence fort, ce fast lane. L'opener du main show, du show principal, c'est une grosse affiche, là aussi, c'est le Women Tag Team Championship. Donc, on a Bianca Belair et Sasha Banks, futur rival à WrestleMania, faut-il le rappeler, qui affrontent donc les championnes, Shayna Baszler et Nia Jax, qui, elle... Ouais, ça s'est pas trop bien fini au dernier weekly, là. Nia Jax qui est parti, c'est ça, c'était, qui avait abandonné sa copine, ou c'était l'inverse?
Non, c'était Baszler qui avait mis un coup de genou à Nia Jax et lui a fait perdre son titre, enfin, la possibilité pour le titre de Sasha.
C'est ça. Ouais, mais il n'y avait pas, du coup, Nia qui était partie pendant le match de Baszler un peu plus tard, là?
Peut-être, tu as raison, ouais.
Il me semble. Quand il y avait eu les fameuses... C'est pas là qu'il y avait eu Natalia et tout le bordel? Enfin, bref.
C'est ça.
Voilà, donc très grosse affiche. Seule affiche féminine. Il y a eu un match qui est semi-féminin un peu plus tard, mais on en parlera. En tout cas, les ceintures individuelles, hein, celle de Sasha Banks, ne sera pas défendue. Et Asuka, toujours pareil, même pas là. Donc ça sera le moment féminin de la soirée. Avec une Bianca Belair qui commence un peu toute seule, qui d'abord virevolte, puis se fait vite secouer par les deux autres, fait taper dans les coins. Nia Jax et Shayna Baszler enchaînent assez rapidement. Il y a un hot tag qui passe. Alors là, Sasha Banks, pour le coup, elle fait la régalade. Elle fait, comme on dit, elle en prend une pour taper sur l'autre. Là, il y a un moment où elle se tient à Nia Jax et hop, elle fait un dropkick en passant à Baszler. Enfin, elle nettoie un petit peu le ring. Elle le nettoie tellement bien qu'elle permet à Bianca Belair de faire son 450 splash sur Shayna Baszler. Sauf qu'au moment où le pinfall est tenté, Reginald, dont j'avais oublié de parler, mais qui est bien là, notre petit ami francophone, qui est le copain de Nia Jax, il monte sur le bord du ring, ça distrait l'arbitre, évidemment. Ah, donc l'arbitre, forcément, entre un gars qui monte sur le bord du ring ou une tentative de tomber, le plus urgent, c'est le gars qui monte sur le bord du ring. Donc voilà, il y a une espèce de bordel ambiant. Sacha Banks essaye d'attaquer Reginald, qui l'évite en faisant ses petits sauts périlleux. Bianca Belair attrape Reginald et le tape. Ensuite, Sasha Banks rentre dans le match et fait un bank statement sur Baszler. Sauf que Nia Jax pousse Bianca Belair qui tombe sur Sasha Banks. Donc, du coup, elle se dispute. Toujours le même coup. Ah, pourquoi tu m'as empêché de faire ma prise? Mais c'est pas ma faute. Et du coup, Shayna Baszler, héroïquement, en profite pour faire un roll-up sur Sasha Banks. Roll-up que Bianca Belair ne pourra pas briser parce qu'elle est retenue par Nia Jax. Et du coup, les challengers de ce soir perdent. Et se disputent à la fin. Et Sasha Banks envoie une grosse baffe à Bianca Belair. Ouh là là, ça y est, ça tombe bien, leur prochain match, elles s'affrontent, donc ça tombe bien qu'elles soient plus copines. Est-ce que tout ça tombait bien?
Ouais, ça tombait bien, après, ça tombait bien, sachant qu'elles sont devenues copines pile au moment où elles se sont défiées l'une l'autre pour WrestleMania, donc quelque part, c'est pas non plus une grande amitié qui s'arrête. J'ai trouvé cet opener assez pauvre, en termes
9
de
9 minutes
qualité.
41.
Ah, il était quand même bien long, tu vois, j'aurais plus dit plus court, ouais. Mais... assez pauvre en termes de qualité, j'ai trouvé. En fait, le problème, c'est que cette histoire-là, elle n'est pas passionnante pour l'instant. On a vraiment qu'une envie, c'est que Sasha et Bianca se foutent sur la gueule et toutes les bisbis, justement, copine plus copine, alors que leur amitié, jusqu'à récemment, n'existait pas du tout. C'est pas vraiment. T'as l'impression que c'est parce que c'est des filles qu'ils ont fait ça. Comme c'est des filles, forcément, elles sont copines parce qu'elles sont faites, etc. C'est un défaut qu'ils ont tendance à utiliser pour des filles, souvent avec les filles, de dire que forcément, quand t'es copine, quand t'es face, t'es forcément les meilleures copines du monde, quoi, tu vois. Alors, même si tu n'as jamais eu aucun segment en commun depuis des années, quoi. Donc, c'est toujours un peu problématique et du coup, moi, ça ne m'a pas vraiment intéressé, je t'avouerai. Je rebondis sur ce que tu disais en tant que c'est le seul match féminin de la soirée. Et j'ai, sauf erreur de ma part, c'est ces matchs tag team entre les championnes et Bianca Sasha. Je crois que c'est les seuls matchs tag team qu'on ait droit en pay-per-view depuis début d'année. Hein. On avait eu la même affiche au pay-per-view d'avant et la rebelote. Donc les filles ne sont pas très bien servies. Mais les tag team en pay-per-view, c'est pour l'instant pas du tout leur annonce 2021.
Non, bah c'est plus pour le moment chez les femmes, c'est presque plus l'année des tag teams quand même que des titres individuels, hein, parce
Ah oui, je
que
parlais des filles et garçons confondus, hein.
ah oui, filles et garçons confondus, d'accord.
Je
Oui,
pense qu'il
ah
n'y a eu
bah
aucun match de tag team garçon depuis le début d'année. Il faudrait vérifier, mais.
en pay-per-view,
Pay-per-view.
fact-checking,
En pré-show, bien
fact-checking.
sûr. Je compte pas les pré-shows parce que ça compte pas, ça.
Non, c'est de la triche. C'est bien possible, hein, vu qu'on a eu le Rumble et l'Elimination Chamber, à vérifier, mais en tout cas, bah, effectivement, pas de match de tag team masculine ce soir non plus, hein, c'est vrai.
Non.
Donc, il va falloir, heureusement, on a un double WrestleMania qui arrive, donc il y aura bien des matchs pour tout ça, mais.
Oui, il y en a déjà un d'annonce en plus. Donc là, c'est bon, ça va redémarrer.
C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, bah, puisqu'on n'a pas de match tag team, on va rouler vers les ceintures intermédiaires. Donc, le titre américain, ça on a vu, c'est Matt Riddle toujours. On va passer vers le titre intercontinental, un match qui était relativement attendu quand même, même si c'est le quatrième ou cinquième de la rivalité. Le champion Big E qui affronte Apollo Crews avec un beau clip où on voit le Nigeria, des guerriers africains, des girafes, des lions, tout ça. Donc voilà, Apollo Crews maintenant, excusez-moi, c'est le guerrier africain. Alors les deux sont chauds d'entrée pour se mettre sur la gueule, hein. Biggie, il envoie son spear à travers les cordes à Apollo Crews. Il fait deux big splash là, sur l'arête du ring avec le corps d'Apollo Crews sorti. Des belly to belly suplex au milieu du ring. Mais Apollo Crews, à un moment donné, fonce, évite une prise et donne un grand coup sur le genou de Biggie. Donc là, Biggie, bah, ça lui fait mal, il est déstabilisé. Il encaisse trois German suplex d'un coup. Il a envoyé l'épaule dans le poteau, donc voilà, c'est le challenger répond violemment à son adversaire. Et tout d'un coup, au bout de 5 minutes 42 de match, Apollo Crews tente un drôle de roll-up qui est bizarrement contré par Biggie et l'arbitre qui compte 1, 2 et 3. Et 3, sauf que personne ne dit rien. Aucune musique ne retentit, si ma mémoire est bonne. Aucun commentaire ne dit And the winner is. Et Apollo Crews se met à tabasser Biggie, lui fout des baffes, lui fout des souplexes, tout ça. Lui dit It's not over, c'est pas fini. Sauf qu'en fait, on n'a rien compris. Et personne nous a dit que Biggie avait gagné. Donc Biggie a gagné. Hein, voilà, il a contré un roll-up en roll-up. Et il a volé le pin. Mais c'était bizarrement exécuté. Et voilà, on a gagné du temps, probablement pour une affiche encore à WrestleMania, ou alors en ajoutant, comme on fait souvent, du monde dans l'équation. Mais là, un drôle de goût d'inachevé, papy, ou qu'est-ce qu'on en dit?
Oui et non. Alors, ils entendent. En fait, la musique de Biggie s'est lancée, mais elle s'est arrêtée directement parce qu'Apollo Crews a attaqué directement Biggie derrière, en fait. Donc, il y a eu quoi? Il y a eu trois notes, ça s'est arrêté directement. Donc, je pense qu'en fait, c'était la victoire de Biggie. Alors, je sais pas si c'est les commentateurs qui ont mal vendu le truc ou Apollo Crews qui s'est emmêlé qui a attaqué trop vite, en fait. Parce que eux, ils ont commencé à vendre un espèce de double KO. Et Apollo Crews, il a même pas tenté de faire croire qu'il pensait avoir gagné. Il a directement attaqué Biggie comme s'il savait qu'il avait perdu, quoi. Donc je pense qu'il s'est un petit poil trop précipité. Tu vois, dans son attaque post-match, il aurait juste dû laisser quoi 3-4 secondes, style, tu sais, il interroge l'arbitre, est-ce que j'ai vraiment perdu, tout ça, avant de péter un câble. Mais sinon, le reste, alors, c'était court. C'était court, ça, il y a effectivement, je pense qu'ils auraient dû rajouter 1 minute ou 2 de plus. Par contre, c'était très intense, le rythme. Les Angle Slam là, qu'il a sorti après le match de Apollo Crews, c'était super impressionnant, je trouve, parce qu'il te soulève Biggie comme si c'était rien. Et le fait que ce soit un match qui va en amener d'autres, tu vois, du coup, ça me fait accepter que le match soit si court, tu vois. Je me dis, ok, bah, c'est un apéro pour la suite de leur rivalité. Moi, ça me va très bien qu'ils continuent jusqu'à Mania parce que. Je pense que j'en avais déjà dit, je suis plutôt satisfait de la rivalité entre les deux. Je trouve qu'elle prend bien. Donc, ouais, c'est un court match, mais qui me satisfait quand même.
Bah, et moi, je trouve qu'il y a une alchimie entre eux. On l'a déjà dit plusieurs fois, puisqu'ils se sont affrontés à plusieurs reprises. Bah, en weekly à SmackDown, donc c'est rarement. Enfin, on a rarement 15 minutes, hein, en weekly à SmackDown, donc c'était souvent des matchs un peu de cette durée-là. Et ça, c'est marrant. Hein, je trouve qu'il y a l'intensité des matchs de Lesnar, là, presque, parce que c'est très. Toute proportion gardée, bien sûr, mais voilà, c'est des souplesses. On
C'est
dirait
au
qu'ils s'envoient
sprint.
que. Voilà, c'est sprint. On dirait qu'ils s'envoient que des finishers dans la gueule, là, des splash, des belly to belly, tout ça. Mais moi, je mets quand même un gros bémol sur l'exécution de cette fin. C'est vrai qu'on n'a rien compris, alors que l'arbitre, en plus, était très clair. Hein. Enfin, elle a montré Biggie, elle a fait le signe. Je ne connais pas tous les codes visuels avec les doigts là, des arbitres à la WWE, mais ça paraissait évident. Et pour moi, il y a eu un souci. Effectivement, soit la musique était trop courte, et ça, j'applaudis les ingénieurs du son à la WWE. Les mecs, dès qu'ils voient que le gagnant se fait tabasser, ils éteignent de suite la musique. Là, il y a un mec, il y a un gars qui est très fort, et il y a. Ah, victoire de Biggie, attention, je lance. Ah merde, il prend un coup. Stop, stop. On arrête la play. Ça, ils sont forts pour faire ça. Et du coup, moi, j'attendais, en fait, l'annonceur qui nous dise And the winner and still Intercontinental Champion, Big E. Et normalement, c'est ça qui déclenche la fureur d'Apollo Crews. Donc, moi, j'ai un peu le sentiment, quand même, d'avoir vu un truc du niveau d'un weekly, quoi.
Ouais, je pense qu'il voilà, il y a un petit peu botché Apollo Crews et je pense qu'en plus les commentateurs n'ont pas vendu le truc en fait. Ils ont mal vendu en jouant justement le style interloqué. Bah, du coup, ça allait pas du tout avec la violence qui était en train de se déchaîner sur le
Ouais.
ring. Hein.
Mais sinon, je suis d'accord avec toi que j'aime bien cet Apollo Crews là. Ça ressemble moins à leurs autres affrontements parce qu'il y a cette haine assez équivoque. Et puis, bah, je sais pas, toi, tu préfères un solo hein, pour cette affiche ou tu veux des échelles et puis trois ou quatre autres gars pour se mettre sur la gueule?
Bah moi j'aime beaucoup les échelles, mais franchement, je
Ouais.
pense que ce match-là mérite un solo en fait.
C'est vrai, je
Là,
trouve
il y a une
aussi.
espèce de haine qui est en train de naître entre les deux. Comme tu le dis, c'est le rythme super rapide. D'ailleurs, je sens que ce match-là, il démarre avec directement Biggie qui fait son spear à travers les cordes au bout de 2 secondes, quoi.
C'est ça,
Donc,
quasiment,
alors
ouais.
que c'est un move qu'il envoie super tard d'habitude. Donc je me suis dit, oulala, les mecs sont partis comme des dératés, quoi. Et ouais, moi je. Bah, à la limite, c'est autant qu'ils mettent l'échelle sur un autre match, peut-être. Bah, peut-être justement sur les tag teams qu'on voit pas ce soir et pour lesquels il y a beaucoup d'équipes en ce moment sur le côté SmackDown. Donc, moi j'aimerais bien du coup un solo pour l'Intercontinental Championship.
C'est vrai. Après, ça existe aussi les solo ladder match. Hein. Ça pourrait être. Bon, c'est souvent pour des matchs plus prestigieux des championnats du monde, mais pourquoi pas?
Bah ouais, mais
Non, t'as pas
le
envie.
style en physique des deux là,
Ouais, c'est
j'ai
vrai.
envie de voir des angle slam, j'ai envie de voir des grosses souplesses et tout là, et ça se prête un peu moins bien au match à l'échelle, je trouve.
C'est vrai. Bon, on verra bien. En tout cas, on aura de la suite. C'est pas fini. It's not over. Il a raison, Apollo Crews. Et voilà. Et puis, petit bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis le Nigeria. A priori, vous n'êtes pas très nombreux, mais si vous existez, bah, écrivez-nous en commentaire ou que vous voulez. Bonjour, nous sommes du Nigeria et nous écoutons Catch Up. Voilà, ça nous fera plaisir.
C'est toujours chaud au cœur qu'on nous écoute du côté de Lagos, peut-être, ça? Non? Je dis une bêtise?
Non, c'est ça.
Ouf! Je me suis lancé trop loin.
Oui, ça c'est le genre de truc où tu peux vite être taxé de Michel Leble. Oui, merci.
Oh.
Merci de Conakry
Ah,
au
Conakry, c'est en
Nigeria.
Guinée.
Je sais. Bon, ben voilà. On revient de ce beau voyage dans les pays lointains. Là, par contre, la douche froide. Hein. Je suis désolé, papy, mais il y a une très mauvaise nouvelle.
Ah.
Et on nous annonçait un gros match, un match de titans entre Braun Strowman et Shane McMahon. Sauf que Shane McMahon s'est blessé à la jambe à l'entraînement. Et en plus, on a la vidéo. On voit Shane McMahon qui est en train d'essayer de donner des coups de pied à un enforcer, un entraîneur là qui est un peu avec des gants de boxe et tout. Et oh là là, il retombe mal, nous dit-on. Alors moi,
Oh, le drame.
j'ai trouvé que c'était épouvantablement mal fait. Aïe, ah là là, Shane. Du coup, il marche sur béquille et est bien emmerdé. Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, rien n'est prévu. Voilà, à la WWE, on se dit souvent balèque, on verra sur le moment. Ça tombe bien parce que Shane, dans les coulisses, en marchant là avec ses petites béquilles, il croise Elias et Jackson Riker. Et Elias, il dit bon, quand même, WrestleMania arrive, voilà, j'aimerais bien faire un petit concert, j'aimerais bien avoir mon moment. Mec, demande-moi quoi qu'il ce soit, je suis prêt à tout pour t'aider, mais je veux mon WrestleMania moment. Bon, bah voilà, hein, on le voit gros comme Braun Strowman ce qui va arriver. Et ben on se retrouve sur le ring donc avec Elias, Jackson Riker et Shane McMahon. Shane McMahon qui laisse Elias jouer quelques notes de musique et puis qui l'interrompt en lui disant au fait mec, tu me remplaces ce soir. Et Braun Strowman débarque, c'est très difficile à dire. Voilà, donc et Shane se casse, hein, il regarde même pas le match de mémoire.
Non, j'ai pas souvenir. Enfin, je sais plus ce qu'il a foutu. Le Red Food Chain, donc.
Voilà. Bon, Jack Snyder, lui, il reste aux abords du ring pour aider son guide spirituel qui se fait un petit peu défoncer, puisque voilà, Braun Strowman versus Elias. Bon, on a dû déjà voir cette affiche hein, en weekly ou autre. C'est pas non plus extraordinaire. Évidemment, Braun commence par détruire Elias dans tous les sens, mais Jackson Riker l'aide un petit peu. Il lui évite, par exemple, un count-out en le remontant sur le ring. Je sais pas si c'était une très bonne idée. Surtout, il distrait Braun, ce qui permet à Elias d'avoir sa petite phase de domination. Il envoie des coups de coude dans la tête de Braun Strowman. Il va même faire sa descente du coude de la troisième corde. Sauf que voilà, ça fait même pas deux, ça fait simplement un. Et puis ben voilà, running power slam et la victoire. Bon, Braun Strowman, il aime bien taper des gens. Donc là, il en a eu pour 3 minutes 50, il a tapé Elias. Mais là encore, bah, it's not over. Sûrement, Shane a réussi à passer entre les gouttes. Voilà, même chose que le match précédent. On fait un petit freinage pour se donner un match suivant plus tard. Alors, je sais que ça t'intéresse pas trop, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire quand même?
Ouais, alors là, pour le coup, le fait que le match soit court, vu l'opposition, oui, c'est un peu logique. Tu vois, si Elias avait réussi à tenir 10 minutes, ça m'aurait un poil gêné. Qui s'est fait mettre KO la semaine dernière par le rappeur là,
Bad Bunny.
Je sais qu'il résiste à Strowman. Au contraire, je trouve que finalement ce match-là était bien fait en fait, parce que du coup, c'était plaisant les 3 minutes. Franchement, c'était plutôt propre. Strowman ressort en monstre alors que il venait de se faire péter la gueule par un vieux de plus de 50 ans. Enfin, désolé pour les gens de plus de 50 ans, mais pas. Dans le catch, un mec de 50 ans qui n'est pas catcheur, j'ai du mal à le voir tabasser Braun Strowman. Donc là, il se refait un peu la cerise. J'ai bien aimé en fait finalement ce match-là. Sincèrement, je préférerais voir ce match-là qu'un match avec Shane. Voilà, c'est dit. Et en fait, en le regardant ce match, je me suis une petite pensée d'il y a 2-3 ans. Au moment où tu avais un peu tous les main eventers de Raw et SmackDown qui se cassaient tous la gueule un par un, qui se blessaient, qui tombaient malades, etc. Je t'ai dit, peut-être que Braun et Elias, ça serait l'avenir de la WWE, parce qu'à l'époque, ils avaient tous les deux des pops de malades, je ne sais pas si tu te souviens. Mm-hmm. Bon, quelques années plus tard, c'est bien retombé, mais ça m'a fait plaisir en tout cas de les voir s'affronter.
Ah oui, tu es plutôt enthousiaste quand même.
Ouais, pas à ce point-là non plus, et ça m'a fait chaud au cœur. Puis franchement, il y a des matchs comme ça où le timing est bon, tu vois, 3 minutes 50, c'est ce qu'il faut, quoi.
Oui, je suis d'accord avec toi, dans le sens où moi, quand j'ai vu que j'étais persuadé, enfin, je sentais venir qu'il y aurait une subtilité, qu'il y aurait une faille, qu'il y aurait un truc, qu'on n'aurait pas cette affiche-là, Shane contre Braun, de suite. Quand j'ai vu que, c'est ça, c'est Elias qui prend le shot, ça, c'est tellement prévisible en fait, surtout quand on voit que Shane part. Alors, il aurait pu revenir avec un kendo stick ou je sais pas quoi pour aider Elias, mais non, il a laissé faire ça. Ça prouve l'implication qu'il a dans cette rivalité. Et le squash paraissait inévitable, donc c'était plutôt, comme tu dis, rigolo à suivre parce que c'était court. Mais sinon, ouais, ça continue de pas être très intéressant hein, entre les promos de Shane qui prennent des plombes, le segment du dernier row qui était assez dramatique, et puis là, c'est bon. Effectivement, on peut voir ça de manière positive pour Elias, qu'on voyait pas depuis un bon moment, qui retrouve un petit peu une place. Mais alors bon, à quel prix? Par contre, pour Braun, c'est pas trop mal. C'est pas si mal. Bien sûr, on va partir sur quelque chose d'un peu plus, une opposition peut-être un peu moins. Injuste, hein, un match qui était pas mal attendu d'ailleurs. Seth Rollins, notre Messi, notre dieu à tous, qui affronte Shinsuke Nakamura. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'affiche auquel on aurait le plus eu d'attente et d'espérance, mais c'est deux catcheurs qui se sont jamais croisés jusqu'à présent, je pense. Hein, ça devait être une des premières hein, de mémoire.
Ouais, j'ai pas souvenir de gros matchs entre deux, ouais.
Et pourtant, Seth Rollins, on ne le présente plus, Nakamura non plus d'ailleurs. Donc il y avait une certaine curiosité, il y avait une certaine attente. N'oublions pas que tout ça est autour de la feud avec Cesaro, mais Cesaro n'est pas là ce soir, il sera pas là. Hein, le match va se dérouler, il n'y aura pas d'intervention ou quoi que ce soit. Alors Seth Rollins prend le dessus assez rapidement dans la rencontre. À l'extérieur du ring, il va taper la tête de Nakamura sur la table des commentateurs. Il lui envoie une série de gros coups de genou dans le ventre, là, en le projetant dans les cordes, en utilisant les cordes pour rebondir. il s'énerve, il parle des fameux 22 swings que lui a infligé Cesaro. Donc voilà, Rollins, il est dans son match, mais il se déconcentre un peu. Il a toujours mauvaise, en fait, cette histoire du Suisse qu'il a humilié. Et ça profite à Nakamura, qui lui reste concentré, se réveille, envoie des coups de genou à Seth Rollins, des strikes. Voilà, Nakamura, on connaît un peu son catch. Là, il tourne sur lui-même pour envoyer des coups de pied en hauteur, des coups de genou. Seth Rollins fera un suicide dive vers l'extérieur du ring. Sling Blade à l'intérieur du ring. On a beaucoup d'échanges. C'est assez rythmé, des échanges de strikes, l'un qui tape l'autre. Le japonais qui envoie du kick, qui tente un Kinshasa, mais qui est évité, qui est contré en buckle bomb, la fameuse prise qui a failli tuer Sting, là, sur le turnbuckle. Seth Rollins enchaîne avec son Falcon Arrow. Il part pour faire un curb stomp, mais il est contré d'une espèce de power bomb de Nakamura, qui retente son Kinshasa, mais qui est encore évité. Seth Rollins lui envoie un kick à l'arrière du crâne, et puis là, il part dans les cordes. Curb stomp. Victoire en 12 minutes 54. Du Messi des foules, clean, legit, et plutôt beau match, non?
Plutôt beau match, j'ai envie de dire un match moyen plus. Je dirais pas bon non plus, parce que j'ai toujours un petit peu de problème avec les rythmes des matchs de Nakamura. Je trouve que ça manque de... C'est pas assez punchy, en fait, ces matchs. Et là, celui-là n'échappe pas, malheureusement, à la règle. Par contre, ils sont fait plaisir. J'ai l'impression qu'ils ont quand même eu pas mal de force tous les deux. C'était plutôt sympa à suivre, plutôt vivant. La fin est très sympa à suivre parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de contre. Évidemment, c'est très sympa à voir. Seth Rollins qui nous sort un nouveau coup là où il rebondit sur le genou de Nakamura pour lui faire un kick derrière la nuque.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Qui est assez innovant et qu'ils ont bien assisté dessus. Donc, je pense que ça va être quelque chose qu'il va essayer d'intégrer de manière permanente. Mais voilà, c'était moyen plus, c'est-à-dire que c'est une bonne transition, c'est pas un match sur lequel je mettrais toutes mes économies, on va dire, mais c'était plaisant à regarder.
Ouais, moi je trouve que c'est la performance solide pour le moment à la WWE, et pour le moment ça commence à faire long, mais on va dire j'ai l'impression que c'est un peu le mieux dont on peut attendre de Nakamura, quoi. C'est un peu ses performances average, la standard, c'est-à-dire des fois il fait des matchs moins bons que ça, des fois il s'implique peut-être un peu plus, après il a été beaucoup en tag team ces derniers mois, donc c'est un peu plus difficile à comparer, mais voilà, quand il veut faire un bon match de 12 minutes contre un taulier, il fait à peu près ça, voilà, ses strikes, ses machins, ses coups de genou, ça envoie, il y a des trucs assez stiff quand même, mais c'est vrai qu'il y a, un storytelling qui est peut-être un peu plus linéaire, ouais, que il y a... Ouais. Et puis, il n'y a pas beaucoup
de... C'est plan-plan, ces matchs, Nakamura.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'intensité dramatique et de montée en créneau. Voilà, ça domine un peu, puis il prend des coups. Après, ça va mieux, mais c'est... Il n'y a pas vraiment la flamme. En plus, bon, voilà, le contexte fait que c'est Fastlane, et c'est pas ce match-là qu'on attend. C'est celui avec Cesaro. Mais voilà, c'était la petite mise en bouche. Moi, j'ai trouvé que c'est un des premiers moments du pay-per-view, vraiment, où on avait de bout en bout un match qui tenait à peu près la prestance.
Oui, le match tenait la route, ça, il n'y a pas de souci là-dessus.
Voilà, allez, maintenant on va rester en parlant de route, on va faire un peu une sortie de route, parce que là, on a le gros match du milieu du show, un No Holds Barred entre Sheamus et Drew McIntyre, match d'Européens, match de frères ennemis, match de costauds, et là du coup, tout est possible, hein. Voilà, sortie de route et sortie de piste, Drew McIntyre qui a un magnifique... magnifique peinture faciale bleu et blanc, là, la Braveheart, l'Écosse, quoi, c'est Scottish. Sheamus, bon, il est juste roux, hein, il n'y a pas besoin d'autre chose, hein, voilà, donc c'est l'Irlande. Beaucoup d'action dans ce match, de 19 minutes 41 quand même. L'action du match commence beaucoup à l'extérieur du ring devant la table des commentateurs, il y a Drew qui envoie deux belly to belly suplex. Ensuite, on va in-ring et les kendo sticks sont de sortie. Sheamus qui les utilise, il tabasse son adversaire. Mais l'Irlandais se fait cueillir par deux Glasgow Kiss, avec Samoa Joe, là, qui est toujours à son habitude, qui « Oh, give us a kiss !» Boum ! Allez, hop, ça donne des coups. Drew McIntyre prend le kendo stick, il va même écraser l'œil de Sheamus, il a dû se croire dans un eye for an eye match. À l'extérieur du ring, Sheamus, lui, va utiliser les escaliers pour prendre avantage, il envoie son adversaire la tête dans l'escalier, il projette l'escalier à la gueule. On se met debout sur la table des commentateurs. Sheamus qui a l'air de tenter une sorte de... On ne sait pas trop ce qu'il a tenté sur Drew, mais il est contré, il est envoyé dehors sur les barricades. ça part se taper dans l'arène. Alors, il n'y a pas de public, mais ça part se taper devant les caméras où on voit les visages des publics, hein, un petit peu comme, si vous vous souvenez, Kevin Owens et Roman Reigns au Royal Rumble. Et là, Sheamus est projeté et traverse un des écrans du public qui s'écroule, ça explose. C'est beau, une belle explosion, hein, quand même. Là, ça fume, il y a des étincelles. Du coup, Drew, en plus, il ramène Sheamus ringside. Alors là, c'est Drew, il déroule, hein. Il le roue de coups, il le traîne, voilà, il le jette, il en fait un peu sa serpillière. Et puis, ben, par contre, Sheamus, lui, il va faire un étranglement des yeux à Drew. Il lui envoie un broad kick qui fait passer Drew par-dessus la barricade. Il se met à gueuler que c'est lui qui devrait être dans le main event de WrestleMania. Il pointe du doigt le logo de WrestleMania. Il prend Drew McIntyre sur son dos, sur la table des commentateurs. Et là, enfin, on a le spot. White Noise sur la table des commentateurs qui s'écroule, évidemment. Sheamus qui traîne Drew McIntyre au milieu du ring, qui apporte, on ne sait pas trop pourquoi, un morceau de la table qui a été brisé. Un morceau visiblement recouvert de métal, donc ça promet de faire mal. Sauf qu'il se fait cueillir par le Future Shock DDT de Drew McIntyre, qui lui envoie ensuite un Claymore. Et donc, bah, assez logiquement, de manière assez prévisible, Drew McIntyre l'emporte, mais au prix d'une belle bataille. Voilà, papy, encore troisième volet, hein, troisième match pour ces deux mecs. On a monté d'un cran. Paris réussi, FUD réussi.
Alors, match réussi.
Match réussi.
Sans aucun doute. Et un match qui fait une rivalité qui est en apothéose avec ce match qui était vraiment super. Je pense qu'il n'y a rien à jeter au match en lui-même. Ce qu'on pourra regretter, c'est le building qui aurait été foireux avec ce match-là, finalement, qui était vendu comme n'ayant aucun intérêt, vu qu'on savait déjà le programme de Drew McIntyre pour WrestleMania. Ils auraient même pu ne serait-ce mettre que poil de « Ah oui, mais si Sheamus gagne, il sera un coup dans le match, j'en sais rien. » Tu vois, juste pour donner un peu d'intérêt, tu vois, mais même pas, non, ils ont juste dit « Bon, bah, ils sautent sur la gueule, mais c'est comme ça, c'est gratuit. » Bon, si on oublie cette construction de foireuse pour ce match-là, que j'ai déjà savaté lors de la review de Raw, voilà, le match pour lui-même, je trouve. Hein?
J'ai dit écoutez-la.
Écoutez-la, bien sûr. Ouais, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Ce match, moi, je l'ai trouvé super. Vraiment très, très, très dynamique. Tu as donné la durée ou pas du match?
En entrée, ouais, 19 minutes 41.
19 minutes 41, donc 20 minutes, quoi. Qui passe vraiment ultra, ultra vite. Je me suis même dit, oh, putain, ils auraient pu remettre 5 minutes, là, tellement c'était bien parti. Bon, je pense que quelque part, il se faisait tellement mal qu'il ne pouvait pas non plus durer 107 ans parce que c'était tellement stiff que c'était. Enfin, les corps étaient très marqués quoi, à la fin du match. Hein. Le bluff chez Meus, j'ai l'impression qu'il allait se vider de ton sang tellement il était ouvert. Quoi.
Après, chez Meus, peau de rouquin, il marque vite, mais oui, quand même.
C'est vrai, c'est ça, ouais. Mais, ouais. Mais bon, voilà. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de faire le blading pour avoir de la violence. Hein.
Non. Et les feux d'artifice sont pas mal.
Effectivement, pas mal. Mais non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce match-là. J'ai vu passer un tweet de Sheamus qui disait que c'est leur main event de WrestleMania qui est arrivé quelques semaines trop tôt. Je sais pas si ça sera vrai parce que j'aime bien aussi Bobby Lashley, mais en tout cas, c'était sans aucun doute la grosse affiche, le grosse affiche de ce pay-per-view.
Bah, ça aurait pas dépareillé en main event de pay-per-view et en affiche de WrestleMania. Ouais, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur tout ce qu'on avait dit à Raw sur la construction de cette feud qui est un peu vachement péjoratif pour le pauvre Sheamus qui sert un petit peu d'apéritif. J'ai eu cette lueur d'espoir là quand il a pointé le logo de WrestleMania et qu'il a dit c'est moi qui devrais être dans le main event. Voilà, il reste 3 semaines. Est-ce qu'il n'a pas gueulé un petit peu pour y foutre le nez? Mais bon, là il a perdu. Il a perdu de manière assez indiscutable. Donc, ça paraît compliqué. Mais au moins, s'il n'aura pas eu ça pour WrestleMania, ils auront quand même eu une très belle affiche, un très beau match. Ils ont, voilà, c'est des copains, on le sait. Ils ont respecté le truc, ils ont fait ça bien. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. J'ai trouvé le match très fort et la fin est arrivée un petit peu vite. Là, en fait, ils sont revenus sur le ring et ça allait. J'aurais presque aimé que Sheamus se lève d'un Claymore et puis en chope un deuxième un peu plus tard. Mais c'était quand même. C'était quand même assez irréprochable. C'est bon boulot, les mecs.
Toi qui as un as des réseaux sociaux, je pense qu'il faudrait lancer un hashtag un match pour Sheamus à Mania. Je ne vote pas contre Drew McIntyre, mais moi, je veux qu'il fasse un match à WrestleMania. Alors, on parlait tout à l'heure de Retribution, de sa fin d'autre boudin. Et ben, si Sheamus pouvait avoir la bonne idée d'aller taper sur l'épaule de Riddle pour lui péter sa gueule, et ben, j'en serais ravi.
Surtout qu'on a eu d'excellents Sheamus Riddle en automne, je sais plus pour quelle occasion, là, pour des matchs de qualif ou je sais plus quoi.
Pour les matchs de qualif, non, pas l'Elimination Chamber, c'était pourquoi. Ouais, t'as raison, il y a eu ça. Mais je sais plus pour quel. Bah, peut-être pour les Survivor Series, je crois, peut-être. Pour ce qui est les Survivor Series.
Oui, tu dois avoir raison. Ça serait une bonne idée. J'aimerais bien lancer un hashtag, mais honnêtement, je pense, avec un WrestleMania en deux soirs, que Sheamus, il va l'avoir son match, surtout vu cette perf de ce soir.
Bah, j'espère.
Ouais, j'espère qu'il aura pas un match trop dégueu, effectivement, quoi. Qu'il sera pas au milieu d'une bataille
royale. Regardez ce qu'il fait depuis 6 mois, là, depuis sa rivalité avec Jeff Hardy, je crois.
Ouais.
Franchement, il y a très très peu de choses à jeter sur ces matchs à Sheamus. C'est vraiment de l'excellent travail.
Je crois qu'il est dans une très grande forme, effectivement. Il a eu Kifli, il a eu pas mal de monde entre les pattes et il s'en est bien sorti à chaque fois. Ouais.
Respect, monsieur Sheamus. Il a énormément jobé et c'est plutôt bien fait.
Ben, je lui souhaite, et c'est un peu la même physionomie que Kevin Owens en fait. Il a beaucoup donné de son corps et il a beaucoup perdu. Je lui souhaite une belle récompense en 2021 à un moment donné, ceinture, champion du monde peut-être, mais au moins champion quelque chose. Ouais, il mérite un petit, une petite heure de gloire là, le Sheamus.
En tout cas, nous on le soutient.
On le soutient. Voilà, on est avec toi, Sheamus. Si tu nous écoutes.
Bah oui, toujours.
Toujours. Allez, Intergender à la WWE. C'est parti.
Mon kiki.
Oh, mais je parle d'intergender, et voici celui qui est le plus intergenre de nous tous.
Celui qui n'a pas de genre.
Qui n'a pas de genre. J'ai cru un instant que c'était Alistair qui s'était encore barré au Craig, mais non, c'est Tonton Chris qui arrive. Mesdames et messieurs, applaudissez Tonton Chris.
Bang, bang, bang! Je suis là, en retard, comme d'habitude, mais le peuple de Ketchup me le pardonnera.
Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais écoute, t'arrives... au parfait moment, puisqu'on allait attaquer voilà, l'intergender match, toi qui es un grand fan de ça, qui aime ça dans les Lucha Underground ou autre. Voilà, Alexa Bliss va affronter Randy Orton, on est dans les starting blocks. Mais juste avant quand même, tonton, je veux ton avis sur le match de bourrin entre l'Irlandais et l'Écossais quand même. Je veux ton avis sur le bel homme.
Ah, le bel homme, le dernier roi d'Écosse. Salut papy, salut Raphaël hier.
Salut.
Salut tonton, et la vie sur le bel homme, la vie sur le grand rouquin, surtout le grand rouquin blanc.
Quelle entrée. Que dire de ce match, que j'ai kiffé ce match. D'entrée, je le dis tout de suite, hein, soyons clairs et nets. Mais alors la badassitude du Drew McIntyre au moment de son entrée véritable, c'était quelque chose. Hein. Je trouve que le maquillage était très à propos. Le mode Braveheart, là, le Irlande-Écosse, là, c'était quelque chose. Hein. Quel match, ils ont tout pété dans le Thunderdome, hein. Tout pété quoi. Vince, il devait pas être content, hein. Ça a dû coûter des sous cette affaire. Hein. Mais quel match quoi. Franchement, enfin moi je du début à la fin d'une violence quoi. Mais alors un truc, car quand on pense les mecs qui se connaissent depuis 20 piges, ils ont tourné sur tous les circuits européens du monde et tout, et ils se retrouvent comme ça dans un match finalement où il y a même pas de ceinture en jeu. Ouais, je sais pas ce que vous en avez dit parce que je vous ai pas entendu parce que j'arrive vraiment en fracassant la porte du studio. Mais en tout cas, de mon côté, c'est du gros 4 étoiles qui tâche.
Bon, on en a dit beaucoup de bien. Papy disait que certaines sources parlent même d'un main event de WrestleMania qui arrivait trop tôt. Est-ce que c'est ton opinion? Ça aurait dû être ça, un main event?
Ouais, peut-être 20 jours trop tôt, peut-être, qui sait. Ouais. Mais même franchement, l'affiche les Bobby Lashley, Drew McIntyre, pour moi, elle a de la gueule, quoi. Mais un peu comme à SmackDown, et ben, à Raw, finalement, un triple threat, ça aurait pas été fou, quoi, finalement, entre... Lashley, Sheamus et Drew, quoi. Mais là, quand on voit la qualité dans un pay-per-view intermédiaire qui, au-delà de ça, n'a pas énormément de conséquences sur WrestleMania, c'est moins qu'on puisse dire, à 2-3 exceptions près. Mais franchement, là, comment ils ont délivré la marchandise, les deux Celtes, waouh, ça faisait plaisir.
Ouais, bah tu rejoins notre avis, on a été bien contents de ce match. Avant ça, on a eu un petit peu plus de mal. Alors, puisque tu arrives en cours, est-ce que tu veux... nous dire un petit peu ce qui s'est passé avant là, est-ce que l'intercontinental match Rollins, alors, tout ça.
Ouais, alors là Braun Strowman rien à foutre quoi, la blessure archi méga fake de Shane, c'était tout pour Raph ça. Donc rien à dire en fait là-dessus, ça c'était vraiment ça va être pas loin du flop, je spoil. Le US match en fait en pré-show hein. Grosse surprise, donc oui. J'imagine que Papy l'a pas vu. Et du coup, Papy a raté donc le split de Retribution. Donc ça y est, c'est parti, le split de Retribution. août 2020, mars 2021, Rest in Peace Retribution. Riddle a conservé, aucune surprise pour moi, je l'avais mis dans les promos, donc voilà. Le Big E, Apollo Crews, c'était un bon petit match, malheureusement gâché par un finish tout pourri. Vraiment, là, il y avait du botch là, sur cette affaire, et ça, pour moi, ça m'a... Ah, je fais, ah non, comment on peut terminer un match comme ça, quoi. Et après, le tag team féminin, moyennasse, le tag team féminin. Bon, ça y est, en tout cas, je suis rassuré suite à différents reviews de SmackDown, de Raw, etc. J'espérais que Bianca et Sacha, elles allaient enfin passer à une affaire où elles allaient régler ça entre elles, toutes les deux, et c'est le cas. Donc ça me satisfait.
Très bien. Voilà, petit mot sur Rollins, Nakamura.
Ah oui, Rollins Nakamura, c'était pas mal du tout aussi ça. Ah oui, ça j'ai bien aimé moi. Bon, c'était dommage finalement qu'on ait eu un petit peu, on en a presque un peu trop vu à SmackDown, mais en tout cas la qualité in-ring était là. Cesaro est dans la ligne de mire, donc tout ça me satisfait.
Ok, très bien. Mais voilà, t'es à jour, tonton.
Voilà, t'as vu un peu en deux minutes là, bam 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 bam.
Très bien. Eh bien, écoute, tout le monde est à jour, tout le monde est prêt pour partir vers autre chose. Le fameux intergender match dont je parle depuis tout à l'heure. Donc, Alexa Bliss qui avait défié Randy Orton et Randy Orton qui avait accepté. Randy Orton, ça fait 3 mois, hein, le pauvre, 2 ou 3 mois, qu'à chaque fois, il croit qu'il va avoir un match normal. Et bien naïf, le pauvre Randy Orton. Il arrive, il y a sa musique, il se met sur le turnbuckle, là, il parade avec sa prise qu'on connaît tous, là où il étale grand les bras. Et puis, tout d'un coup... Ah bah mince, il a mal digéré, on sait pas trop quoi, et il se met à vomir du pétrole en plein milieu du ring, c'est dégueulasse, il va même chercher une serviette pour s'essuyer la boubouche. Alexa Bliss en profite pour arriver et pour déclencher la lumière qui sera l'ambiance du match, un peu comme Sin Cara à l'époque, sauf que là c'est du rose mauvre pourpre sombre. Et puis bah, à peine le match commence, il y a des flammes qui jaillissent autour d'Alexa Bliss. Randy Orton il charge la jeune femme parce que quand même il est méchant, mais hop, elle l'évite, il prend le poteau. Alexa Bliss elle regarde le plafond et elle arrive en regardant le plafond à faire tomber des projecteurs qui ont failli tuer le pauvre Randy Orton. Donc voilà, Randy Orton il lui tourne un petit peu autour, Alexa Bliss elle l'évite, elle fait voilà, ça joue un peu au jeu à chat et à la souris là, Tom et Jerry. Elle l'invite à monter sur le ring, elle utilise la première corde un peu comme une balançoire. Bon, Alexa Bliss évidemment elle est maquillée un peu façon The Fiend. Et puis ben là, elle tire sur Randy Orton, une de ses fameuses boules de feu dans les yeux. Et Randy Orton, il a très mal, mais un peu moins que d'habitude, il a quand même réussi à l'éviter. Sauf qu'à ce moment-là, le ring s'ouvre par le dessous. Une main brûlée au 4e, 5e, 8e degré apparaît, une main infernale, effrayante, qui attrape la botte de Randy Orton. Et tout un corps apparaît, un corps brûlé, martyrisé, scarifié. C'est The Fiend qui débarque. Le Fiend est là. Et le Fiend, il colle une Sister Abigail à Randy Orton. Et Alexa Bliss fait le tomber. Parce que, chose curieuse, hein, à partir du moment où le match a commencé, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus un seul arbitre sur le ring. Mais par contre, là, l'arbitre il est venu faire un tombé discret, puis il s'est cassé très vite. Donc en 4 minutes 38, relativement court, bah, Alexa Bliss a battu Randy Orton, dis donc. Ça paraît incroyable de dire ça comme ça, mais en tout cas, ce qu'on avait un peu présagé dans nos analyses en weekly est arrivé. Le Fiend est de retour. Il n'a pas trouvé la biafine, mais par contre, il a l'air de vouloir en découdre. Tonton, résultat, match surprenant. Toi qui aimes bien les boules de feu et toutes ces performances-là, ça t'a plu?
T'as décidé que j'aimais tout, moi, ce soir. J'aime l'intergender, j'aime les boules de feu.
À l'intergender, tu nous l'as dit, au catch mexicain. Les boules de feu, ça, tu en rajoutes.
Au catch mexicain. Eh bien, écoute, moi, j'ai été interloqué pendant, on va dire, les 2-3 premières minutes. Toute l'affaire des boules de feu, du machin. Alors, Randy Orton, il crache à nouveau du pétrole. Alors, Randy Orton, finalement, il a une maladie qui est à mi-chemin entre le Covid et la peste noire. Donc, on va dire qu'il est atteint d'un Covid noir. Et visiblement.
Variant mauvais, là.
Ouais, un variant très, 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 très négatif. Visiblement, c'était pas ça, quoi. Donc, écoute. Je te déroule là sur l'ensemble du match, parce que je ne sais pas où vous en étiez en fait avec l'intergender. Vous aviez déjà commencé ou...
Non, on n'avait pas commencé.
Ah, vous n'aviez pas commencé, excusez-moi, ok, d'accord. Mm-hmm. Du coup, en fait, les 2-3 premières minutes, je me suis un peu dit, oh, merde, ça va être chiant ce truc-là. ça va être super chiant là, qu'est-ce qui va se passer là. Et puis qu'elle nous refasse le coup de je balance de la boule de feu. Et puis, bah, voilà, c'est cette sortie du film de sous le ring. Et puis ce finish dans Purple Rain. Je sais pas, c'est bizarre, je suis mitigé en fait. C'est, sur un certain plan, je trouve très réussi visuellement le film, là, en grand brûlé, un masque complètement destroy. Moi, je suis plutôt preneur. Je trouve que c'est assez cohérent avec ce qui s'est passé auparavant. Donc finalement c'est pas mal. Est-ce que c'est pas trop tôt? On en a parlé avec Papy pendant la review de SmackDown, allez l'écouter.
Et tu voulais pas le voir toi hein?
Ouais, moi je voulais pas le voir. Et puis bah là je reconnais que finalement ça a été très très fugace et ça m'a pas dérangé plus que ça et ça a sauvé les premières minutes qui vraiment m'ont vraiment laissé un peu pantois. Et du coup bah j'en ai un avis un peu mitigé de ce segment.
Bah Papy a peut-être un avis plus tranché.
Ouais, en fait non, c'est un tranché dans la mitigation. C'est pareil en fait. En fait, moi j'ai un souci en fait que je commence petit à petit à visualiser. Et mon souci s'appelle Alexa Bliss en fait. C'est que depuis qu'elle est en rivalité avec Randy Orton, qu'elle a pris la place du film, bah, c'est devenu super chiant. Et dès qu'elle est dans le ring avec lui, bah c'est chiant parce qu'en fait, quand ils peuvent pas vraiment catcher ensemble. Bah, c'est tout le temps des plans de des montages foireux, tu filmes l'un, tu filmes l'autre, tu filmes l'un, tu filmes l'autre, il apparaît, disparaît, etc. Et j'aime pas ça du tout en fait. Et donc quelque part, je suis un peu soulagé que le film revienne parce que du coup, il va reprendre les choses en main et bah, ils vont peut-être vraiment y avoir d'impact entre les deux, ils vont pouvoir se toucher quoi, tu vois, mine de rien. Tandis qu'avec Alexa, comme c'est que de l'évitement et que c'est que des montages foireux, bon là, elle a pas changé de tenue, c'est déjà ça. Mais ouais, c'est marrant parce que pourtant, moi j'étais super heureux qu'Alexa Bliss rejoigne la Firefly Funhouse et tous ces trucs-là parce que je trouvais qu'elle s'intégrait vachement dans le truc. Mais alors, une fois que le film a disparu et qu'elle a pris le lead sur l'affaire, bah c'est devenu chiant en fait. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et donc, bah c'est un soulagement de voir le film revenu, mais bah du coup, le reste du match, bah, j'ai trouvé ça chiant.
Ok, bah écoute, moi je suis un peu. Ah, je suis un peu mitigé aussi, hein. On est tous, je pense qu'on est tous un peu perplexes. Là où je rejoins Tonton, et je pense que ça aurait pu être bien pire, dans l'exécution, j'avais un peu peur hein, du retour du film, de comment ils allaient pouvoir faire revenir un mec qui a été brûlé vif sous nos yeux. J'ai trouvé effectivement une grande réussite dans le visuel, enfin ouais, cette main décharnée, enfin voilà, il est grand brûlé quoi, et c'est réussi. Et je regrettais énormément qu'ils n'avaient pas joué cette storyline-là pour Orton, là, quand il avait le fameux Orton grand brûlé masqué, ça avait duré une semaine et c'était dommage. Mais là, il y a un truc, là. En tout cas, ce soir-là, le retour du Fiend, c'était presque soft. Et ça, je trouve bien. C'est-à-dire, j'avais peur, comme toi, Papy, que Alexa Bliss, elle nous fasse le coup du « Ah, je change de tenue, je redeviens la petite Alexa Bliss pom-pom girl et puis je redisparais. » Et puis les écrans qui font « Tiou !» qui s'éteignent petit à petit. Finalement, je suis moins fâché que vous peut-être. Enfin, j'ai trouvé ça assez court quand même. On est arrivé vite à la fin, quoi. 4 minutes. Après, bon, c'est sûr que c'est toujours les trucs, voilà, projecteurs qui tombent sur la gueule de Randy Orton, c'était un peu moyen. Puis globalement, la feud, en fait, c'est pour dire ce qui est, c'est la feud qui a été beaucoup trop longue. Hein. Ils ont dû décider que, je sais pas pourquoi, ils ont décidé qu'on foutait le feu à TLC et puis qu'on le faisait revenir qu'avant Mania, ce qui fait que. En fait, moi, j'aimais bien Alexa Bliss comme toi en sidekick dans la Firefly Funhouse. Je l'aimais bien sur un premier segment ou deux. Là, il y avait bah, celui où elle envoie la boule de feu, je crois, où elle est toute habillée en noir, en mariée, en deuil. Enfin, il y avait un truc de tristesse infinie dans son personnage. Mais après, ça aurait pas dû durer 2 mois, quoi, où elle apparaît, elle disparaît, elle fait mine de brûler, elle brûle pas. Et puis Randy Orton, qui, encore une fois, pour moi... avait vraiment le rôle du couillon qui toutes les semaines arrive, ouais j'ai un match contre AJ Styles, ok, ouais j'ai ça, ouais non tout va bien se passer, pourquoi, et puis finir par vomir effectivement le Variandi Orton là, où je sais pas comment on peut l'appeler, mais donc on va passer à du catch.
Ouais, c'est le benet, Randy le benet.
Bah, un peu, il y a une telle inversion par rapport à l'époque où c'est lui qui foutait le feu à la maison de Bray Wyatt et tout, que il me déçoit un peu là Orton sur ce coup-là. Mais on va enfin pouvoir passer à autre chose, je suis content, comme l'a dit Papy, on va arrêter d'avoir Alexa Bliss qui fait juste des coucous et des apparitions sur le titantron ou qui disparaît et qui réapparaît. Bah, voilà, on a un peu de la viande qui revient, même si la viande est un peu à point, un peu saignante, mais ça devrait enfin se mettre sur la gueule un peu plus. Par contre, après... Voilà où je suis très intrigué, c'était tellement un climax cette combustion du Fiend, que je vois ce qu'ils vont pouvoir nous inventer comme match après ça, quoi.
Buried Alive, un truc comme ça.
Ouais, peut-être.
Ouais, ça, c'est la grande question. C'est quelle va être la stipulation à WrestleMania, quoi. C'est vraiment...
Parce que là, il est temps d'en finir, quoi, de cette histoire.
Ah bah, il faudra bien qu'ils en finissent un jour ou l'autre, parce que de toute façon, il faudra bien aussi que Orton, comme le film d'ailleurs, aille un peu sur d'autres programmes, quoi, parce que
c'est vraiment...
Elle est longue, cette rivalité entre Orton et le film. Et souvent, on se plaint d'ailleurs des fois que ça, c'est trop court, etc. Mais là, pour le coup, on peut pas dire, là, on est vraiment dans une rivalité au long cours.
Ah bah, ça, oui. Je sais même plus sur quoi ça a commencé, tout ça.
Bah, je crois que c'est dès que le Fiend a rejoint Raw, il a quasiment directement jeté ses yeux sur Orton, je crois.
Oui, c'est ça. Bah, et Orton est devenu champion quasiment au même moment. Ça doit être à l'Innocell, là, par là, ouais. Ouais.
Et t'as Alexa Bliss qui le croise avec un regard bizarre, et puis derrière, ça a directement enchaîné, quoi, en fait.
Ça commence à faire long. Ben voilà, on verra bien ce qu'on aura à WrestleMania entre ces deux hommes, enfin, puisque là, ça va repartir un peu dans de la virilité violente. Et Alexa Bliss, on verra. Peut-être face à Asuka, je ne sais pas. On verra.
Non.
On arrête les frais. Non, mais il faudra qu'on la libère aussi, Alexa Bliss, qui est une storyline, quoi, qu'elle redevienne un peu qui elle était, quand même.
Bah, je pense qu'il y aura une storyline de désenvoûtement ou une connerie comme ça, mais je pense pas que ça sera pour tout de suite.
Hein. Une storyline de désenvoûtement. on fait du vaudou catch.
Tu sais, elle va, la tête qui tourne, elle va vomir partout, c'est magnifique.
Non, mais ça, moi, je sais, Rhea Ripley, là, le Nightmare, elle arrive, elle décide un pentacle, elle fout Alexa Bliss, et puis hop, elle la libère. Puis à son copine, elles vont gagner le titre tag team.
Allez, on y croit.
Voilà. Non, j'avais dit de Iconic Nightmare pour la tag team entre Rhea Ripley et Billie Kay, mais là, ça serait les, je sais pas moi, de Little Miss Nightmare ou un truc du genre. C'est sympa de trouver des noms des tag teams féminines, j'aime bien. Puis après, elle sera avec Lana, sa phrase de Ravishing Nightmare, et ça sera formidable.
C'est beau, on voit que t'as des passions dans la vie. Hein.
Voilà, on passe au main event. Et alors là, quel main event? Le champion universel Edge, n'importe quoi. Le champion universel Roman Reigns. Spoiler. Le champion universel Roman Reigns affronte Daniel Bryan et avec un special enforcer, donc une sorte d'arbitre de touche, hein, qui va compter les hors-jeux.
Remplaçant.
Qui s'appelle Edge et qui lui n'a pas mis un petit t-shirt rayé noir et blanc là. Il garde son t-shirt qu'il faut vendre, hein, merchandising, tout ça. Donc on est parti pour une affiche là. On avait du suspense, on hésitait quand même. Daniel Bryan, est-ce qu'il va pouvoir à dernier moment s'infiltrer dans tout ça? En tout cas, à ma grande surprise, Daniel Bryan, il a commencé le match comme quand il affrontait Lesnar en petit con mais qui tourne autour là, en moucheron chiant, qui envoie des petits coups de pied. Qui tente des soumissions, qui passe des torsions de bras, tout ça, qui envoie quelques kicks, et puis après, bon, Roman Reigns, il roule dessus, hein, comme avait fait Lesnar, il l'attrape, puis power slam, souplesse, il le roue de coups au sol, comme il fait, il l'envoie dans le poteau à l'extérieur du ring.
Dans le poteau.
Voilà, il le détruit, puis il parle, Roman Reigns, comme d'hab, là, il nous refait son délire, acknowledge me, genre, reconnais-moi, Tribal King, tout ça, Paul Heyman qui rajoute un petit peu. Puis Daniel Bryan se réveille, il envoie une série de kicks, de drop kicks, il part en sorte de flying elbow, là, et puis tout d'un coup, ils sont tous les deux au sol, il y a eu un gros choc. On part Roman Reigns roule à l'extérieur du ring, Daniel Bryan part en suicide dive, il envoie Roman Reigns dans le poteau à nouveau à l'extérieur du ring, il lui fait un missile drop kick dans les cordes, dans le ring, donc ça fait near fall, simplement deux, mais Paul Heyman commence à se dire, voilà, ça sent pas bon. Il y a une série de yes kicks que j'ai trouvé magnifique. Je crois que Roman Reigns a été le meilleur seller des yes kicks parce qu'il a essayé de se relever et puis prenait un kick, il retombait à genoux, il réessayait de se relever, il reprenait un yes kick. C'était très beau, très bien joué. Roman Reigns ensuite s'acharne dans le coin, il tabasse Daniel Bryan dans les cordes, donc l'arbitre il râle un peu, il fait 1, 2, 3, 4, non arrêtez, arrêtez à nouveau. Et tout d'un coup, yes lock. Hop, Daniel Bryan qui place son yes lock. Très 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 long yes lock, il le tire même au milieu du ring. Roman Reigns réussit à renverser la prise pour faire un power bomb. Et là, l'arbitre a la magnifique idée de faire une sorte de comment on peut appeler ça, à la queue leu-leu avec Roman Reigns. Il se met juste derrière Roman Reigns, sauf que du coup, ben Daniel Bryan qui part pour un high running knee, et Roman Reigns évite et bam, croyez-le pas les amis, si c'était pas incroyable ça, ref bump, boom. Alors dis donc.
bien exécuté, moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'arbitre.
L'arbitre a magnifiquement scellé. Hein.
Ah putain, alors moi, j'ai pas été concentré sur le sel. Désolé, j'ai juste vu que l'arbitre, ça faisait 5 secondes qu'il était derrière Roman Reigns. Et je me suis dit, non, là, on le voit venir. Mais après, il a pris cher. Ouais. Donc, du coup, Rev Bump. Roman Reigns en profite pour faire un spear sur Daniel Bryan. Sauf que, il n'y a pas d'arbitre. Mais ici, il y a Edge qui monte sur le ring et qui fait le tomber. 1, et ça fait simplement 2. Puis Daniel Bryan, il place un triangle, puis un yes lock très violent. Il envoie des coups de coude pour finir son yes lock. Donc Roman Reigns, il prend vraiment cher. Sauf que Jey Uso débarque. Jey Uso, il envoie un gros kick à Edge. Il envoie un kick à Daniel Bryan. Il envoie Edge dans le poteau. Il sort, il prend une chaise. Mais quand il revient sur le ring, il prend le running knee de Daniel Bryan, qui le tabasse un petit peu avec une chaise. Il s'élance pour envoyer un coup de chaise à Roman Reigns, le Daniel Bryan. Sauf que hop, Roman Reigns, encore une fois, il évite. Et du coup, bam, deuxième arbitre qui prend un coup. Sauf que ce coup-ci, c'est Edge qui se fait taper par la chaise de Daniel Bryan. Roman Reigns tente un spear qui est évité. Daniel Bryan repasse une énième yes lock. Et Roman Reigns, il tap out. Il s'évanouit. Là, il a très bien scellé, je trouve, l'évanouissement. Sauf que personne ne voit tap out. Enfin, si, le monde entier, les caméras du monde entier, mais il n'y a aucun arbitre officiel qui le voit tap out. Et donc, le match continue. Et Edge, il prend une chaise, il tape sur tout le monde, parce que c'est l'arbitre, il a le droit. Il fout des coups de chaise à tout le monde et il s'en va. Et donc, du coup, il y a un nouvel arbitre, un troisième arbitre qui arrive. Puis, en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire, Roman Reigns va juste se coucher sur Daniel Bryan et obtient le tombé. Donc, ce coup-ci, il gagne, d'après mes sources, qui s'appellent le site cagematch.net, d'après 30 minutes 0-0, tout pile. Ouais. Et Roman Reigns l'emporte, donc un long main event, overbooking comme on pouvait s'y attendre avec l'ami Edge dans les parages. Je sais pas si on pouvait s'attendre à ça, mais papy, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui hésitais un peu, hein, Daniel Bryan, il te faisait croire qu'il était presque capable de piquer le titre. Est-ce que tu as cru dans ce match? Est-ce que tu as frissonné?
Non, j'ai pas frissonné en fait. Non, j'ai pas frissonné parce que 30 minutes, c'est long, 30 minutes. Hein. C'est long surtout à ce rythme-là, en fait. Tu vois, les 30 minutes au rythme chez M. Drew McIntyre, je les aurais pris sans sourciller. Là, sincèrement, il y a des moments où je regardais la montre. Comme je me disais, putain, mais ils vont jamais en finir de ce match-là. C'était moyen. Voilà, j'ai trouvé ça moyen comme rivalité. Ça avait pas trop d'intensité, effectivement. Sauf à la fin, avec l'enchaînement d'Yes Lock, effectivement, on a eu un peu plus comme de trucs. Alors, tout le début, c'était chiant comme la pluie. À un moment j'ai même cru que j'allais dormir telle une marmotte qui est très en train d'hiberner, mais non. J'ai résisté jusqu'au bout. Et puis par contre, je suis un peu perplexe quoi, par le finish, parce que là Edge il reste face après ça. Il arrive à Mania, je suis pas sûr qu'il va pas être soutenu à Mania et à Reigns non plus, donc du coup je vois pas comment maintenant tu peux faire pour ne pas prendre Bryan à Mania, tu vois. Donc je suis, en plus il a fait taper Reigns, donc je suis perplexe avec ce finish.
Tonton, t'as la clé de l'énigme.
J'ai peut-être la clé de l'énigme. Sur le match en lui-même, effectivement 30 minutes c'était long, et effectivement ça pouvait apparaître encore plus long parce que ils ont beaucoup actionné les leviers des soumissions quoi. Et le yes lock en particulier, le yes lock ça a duré un long très long moment et ça a été peut-être un peu raté à mon avis à ce niveau-là. Ils n'ont pas retrouvé le rythme qu'il y avait eu entre Roman Reigns et Bryan il y a quelques années, je ne sais plus dans quel pay-per-view où ils avaient sorti un match dantesque.
Là, c'était un fast lane aussi.
C'était un fast lane aussi, hein, il me semble bien. Hein. Je crois d'ailleurs que fast lane ça réussit bien Roman Reigns parce qu'il est à 5-0 pour l'instant dans les fast lane. Invaincu dans les fast lane, le Roman Reigns. Mais j'ai quand même bien aimé le match, quoi, malgré tout, quoi. Moi, j'ai trouvé que les mecs vendaient super bien le truc et tout ça. Et concernant la théorie, puisqu'il faut une théorie et que j'en ai une, écoutez, c'est simple. Hein. WrestleMania 30, Batista gagne le Rumble. Batista, il turn pendant la road to WrestleMania. Daniel Bryan est ajouté au match de WrestleMania et est le seul face du match. Edge 2021 gagne le Rumble. Il turn au cours de la road to WrestleMania. Et certainement que Daniel Bryan est ajouté au match et sera le seul face du main event. Je pense qu'on a tout simplement repris les copies des scripts des Raw et des SmackDown de 2014. Et puis que là, parce que là, ça tourne dans tous les sens, la WWE fait quasiment plus mystère que malgré la défaite de Daniel Bryan, il va être ajouté grâce au heel turn de Edge, il va être ajouté au match. Vous voyez une autre issue là?
Ah non, moi j'ai tourné le problème dans tous les sens, j'ai pas trouvé d'autre solution en fait. Parce qu'en plus, il n'y a aucun face qui se l'est. Tu vois, si Kevin Owens n'était pas reparti sur sa misaine, j'aurais dit, bah tiens, c'était le moment de le ressortir, tu vois. Mais là, bah non, en plus, il l'a envoyé sur sa misaine, donc je vois pas comment ça peut. Ryan peut échapper à ça, et bah je. Je sais pas si je suis content en fait.
Moi, je suis content dans le sens où j'étais pas forcément. Même si je comprenais l'idée du Spear versus Spear, là, Le Edge en solo me faisait un petit peu peur, et moi je trouvais je trouve toujours qu'il y a possibilité d'avoir pour le coup un excellent match, une très bonne dynamique en triple threat. Par contre, tu fais écho à 2014, c'est pas non plus tout à fait la même circonstance. Hein. Edge a pas pris des sauts de merde en revenant et a pas été poussé
parce
à ça.
Parce qu'il y a personne. Parce qu'il y a personne. Du monde, c'est le cas, hein, franchement.
Peut-être, mais par contre, j'ai du mal à voir. Je sais pas quelle sera l'issue d'un hypothétique triple threat, mais ça sera pas la même histoire, quoi. Ça sera pas le Daniel Bryan qui est sûr. Ouais, j'espère pas. Moi, j'ai bien aimé le match quand même, je suis vraiment depuis qu'il est heel, un gros fan de Roman Reigns qui arrive à, je trouve, tout jouer là, la violence, le désarroi là quand il est pris dans les prises de soumission. Par contre, je m'attendais pas à ça et je suis un peu déçu de Edge, ouais. Déjà que j'imaginais beaucoup plus actif surtout le début du match, parce que normalement, enfin, dans mes souvenirs, un guest enforcer, il est un peu là, il fait un peu la police aussi, il peut un peu parler à l'autre arbitre, il peut, par exemple, inciter à faire le décompte dans les cordes ou ce genre de choses, et il a été très très transparent jusqu'à ce qu'il y ait le ref bump. Et ensuite, j'ai trouvé ça pas très clair, un peu bordélique, en fait, parce que du coup, ça devient un arbitre, mais par exemple, il prend un coup de chaise, mais bon, bah, il sonne pas de disqualification de Bryan, par exemple.
C'est vrai.
Et puis, moi, en fait, ce qui m'a énormément dérangé, parce que dans le match, très honnêtement, j'y ai cru, hein, parfois. À plusieurs reprises, j'ai failli croire à la victoire de Daniel Bryan. Et pour moi, Edge a fait une grosse faute en se barrant, en fait. Au moment où il tape tout le monde et il se barre, c'est fini, quoi. Je vous dis, il se passera plus. Il va pas y avoir une espèce de gros choc surprise avec la victoire de Bryan. Donc, une fois que Edge avait tapé tout le monde, alors du coup, est-ce qu'il est heel ou pas? Il tape Reigns, il tape Bryan, il tape tout le monde. Mais pour moi, le show s'est fini un peu à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque le pin derrière est totalement anecdotique. Donc, ça m'a un peu déçu. Ouais, est-ce que finalement, voilà, les deux mecs se sont mis sur la gueule quand même vachement violent pendant une demi-heure. Mais Edge a un peu tiré la couverture à lui. Donc c'est vrai qu'il m'a paru heal, mais là, j'aurais du mal à. Sur juste ce soir-là, j'aurais du mal à mettre ma main à couper sur les alignements. Par contre, on peut pas, à mon sens, faire sans Bryan à WrestleMania, parce que Roman Reigns a tapé devant des millions de téléspectateurs. Il a tap out, quoi. Donc,
ça me choque pas tant que ça, en fait, le tap out, tu vois.
Non, moi non plus.
Moi, c'est plus le fait que Edge est tapé, mais surtout, en fait, qu'il a gueulé en disant it's mine, genre, c'est à moi d'être à l'affiche de WrestleMania, tu sais, genre la crise d'ego, tu vois. Donc, c'est plus ça, moi, qui me fait penser qu'il bascule du mauvais côté de la force, et mathématiquement, du coup, bah, je remets Bryan dans l'équation, quoi.
Ouais. Voilà, bon, ben, on a décrit ce Fastlane, donc c'est le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Avant WrestleMania en deux soirs, donc on avance, hein, un pay-per-view pas mal storyliné qui va sûrement nous confirmer une bonne partie de la carte. Tonton Chris, Tonton Chris, t'es prêt?
Ouais, je suis prêt, moi, quand vous
voulez. Top, flop, note, de la fin, tu vas pouvoir nous en dire plus, puis revenir un peu sur ce pay-per-view, puisque tu es arrivé en cours de route, en défonçant la porte du studio, qui avait déjà été bien abîmé par les coups de Sheamus et Drew McIntyre. T'as profité de l'ouverture, et ben voilà, je t'écoute pour le mot de la fin de End of Fastlane.
Ah bah écoute, sans surprise, mon flop, moi, il va aller à Braun Strowman, Shane McMahon et Elias, quoi. Vraiment, ça, c'était vraiment le truc totalement inutile. Moi, je pensais même qu'il n'aurait même pas lieu, en fait, ce segment-là, au final. Donc, ça a eu lieu. Shane McMahon, il mérite un Razzie. C'est les Razzie Awards, qui s'appellent ça, les Américains, pour les plus mauvais acteurs. Moi, c'était vraiment trop nul, quoi. Vraiment, vraiment trop mauvais. J'ai vraiment pas adhéré une seule seconde à ce truc du début à la fin. Allez, hop, à la poubelle. Et puis j'ai envie de dire que mon top, ça va pas être une grande surprise non plus, puisque mon top, je vais le donner au match entre Drew McIntyre et Sheamus. Voilà, un no holds barred des familles à l'ancienne, old school, entre Celtes. C'était un très bon match, un des meilleurs matchs depuis le début de l'année 2021. Pourtant, ils s'étaient déjà affrontés à Raw, mais là, on est passé à un degré au-dessus en termes de violence, et c'était vraiment top. Et puis, ma note, écoute, pour moi, c'était un pay-per-view intermédiaire, hein, comme je l'ai dit, et qui ne sert pas à grand-chose, à vrai dire. Pour moi, Fastlane, ça fait partie des un ou deux pay-per-view qui sont de trop sur l'année. Et on aurait très bien pu, ce qu'ils ont plus ou moins booké ou ce qu'ils nous ont présenté pendant ce pay-per-view, on aurait très bien pu le faire pendant les weekly. Et ça donnerait peut-être un peu plus d'énergie aux weekly, en particulier à Raw. Donc voilà. Donc écoute, c'était pas mal. J'étais pas extasié, quoi. Et puis c'était quand même, je vais terminer là-dessus, c'était quand même archi méga prévisible. Quand je vois le nombre de perfects qui ont été réalisés sur les pronostics, que ce soit sur les codes Twitter ou que ce soit dans le Discord, je suis ébahi, quoi. Rarement on aura vu autant des perfects ou aller des perfects moins un se balader comme ça sur notre Discord. Donc vraiment, vraiment, aucune surprise. Donc ça manquait cruellement de suspense, quoi. Donc moi, voilà, c'était moyennasse plus, je vais lui mettre un 2,75 à ce Fastlane.
Ah, quand même, pas une très mauvaise note. Papy, je crois qu'il avait préparé depuis longtemps ses scores pour une fois. Donc il va pouvoir nous lire, Papy.
J'ai fait mon fichier Excel parce que, comme j'ai tendance à oublier les pay-per-views d'avance, et je me suis dit, cette année, je vais pas me faire avoir, donc j'ai tout noté. Et j'ai déjà préparé mon fichier. Donc, alors, c'est drôle parce qu'en fait, pour la note, j'ai la même que tonton. Mais moi, c'est un 215 en disant que c'est mon meilleur pay-per-view de l'année 2021 pour l'instant.
Ah, carrément.
Et je lui mets un 275 quand même parce que je l'ai trouvé moyen plus aussi, effectivement. Il y a un gros match qui remonte vachement la note. Pour moi, c'est le Sheamus Drew McIntyre qui prend mon top sans aucune hésitation possible. Il est vraiment très, très au-dessus. Le reste, c'est assez moyen. Voire parfois sans intérêt, comme le disait tonton. Donc voilà, donc je suis plutôt satisfait de ce pay-per-view, mine de rien. Je voulais dire un truc que j'ai zappé, c'est pas grave. Mais du coup, je vais partir directement sur le flop. Mon flop, je vais le donner à moi. Comme j'ai dit, je vais pas dans le sol, Braun Strowman et Léa. C'est à la limite, je préfère aller dans le ring que Shane McMahon. Et donc, du coup, je le donne à Alexa Bliss, moi, mon flop. Enfin, le match contre Randy Orton, que j'ai trouvé chiant comme d'hab. Je suis content que le film revienne et j'espère que ça va nous permettre d'arrêter ces pseudo-matchs où Orton ne se rend pas compte qu'il va se faire attaquer. Il est temps d'en finir et donc pour une dernière fois, je l'espère, je leur donne mon flop. À noter cependant que vu du coup que je fais, comme tu l'as dit, Raphaël, mes fichiers Excel, je remarque, n'empêche que depuis le début d'année, Roman Reigns, je ne suis pas très satisfait de ses performances en pay-per-view et donc j'espère qu'il va se réveiller pour WrestleMania parce que pour l'instant, il fait un bien mauvais début d'année, je trouve, Roman Reigns au pay-per-view. Donc,
t'es sévère.
Oui, je suis sévère, hein, mais je suis comme ça. À l'opposé de Sheamus, hein, qui est mon top depuis le début d'année. Là, par contre,
voilà.
Je touche les étoiles, Sheamus. Juste devant le Drew.
Très bien. Bah, alors, moi, je trouve gentil sur les notes. Moi, j'ai mis plus sévère parce que je me suis fait chier longtemps, en fait. C'est ça qu'il y a eu un mauvais... Peut-être une très mauvaise gestion de la carte. Peut-être que Rollins Nakamura, par exemple, ils auraient pu faire l'opener, les copains. Parce que le Women Tag Team, c'était du niveau d'un weekly. Biggie Apollo, j'ai bien aimé pendant 3 minutes, mais ça a duré trop court. Braun, c'était un peu nul, effectivement. Pour moi, ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Et j'ai pas quitté cette impression que, la majorité du pay-per-view, on s'est un peu fait chier. Rollins Nakamura m'a un petit peu réveillé. Drew McIntyre, Sheamus. Évidemment, pour moi aussi, c'est le match de la soirée. Le film, pour moi, c'est même pas un match. En fait, c'est un segment. C'est un segment comme on a eu un peu trop souvent à Raw, d'ailleurs. Donc, pour moi, il y a vraiment il y a un match qui est très bon. Un main event qui a eu beaucoup d'intensité quand même. Moi, je suis plutôt content de Roman Reigns. Alors, évidemment, au Rumble, il a raté un petit peu le coup des clés dans le cadenas. Mais sinon, c'était quand même du costaud là avec Kevin Owens. Elimination Chamber, il a pas fait grand chose, mais non, j'aime bien moi Roman Reigns, j'ai bien aimé Daniel Bryan sur la fin, hein, qui a vraiment mis tout son corps et toute son énergie là-dedans. Mais quand même, moi, j'ai mis un 2. J'ai mis simplement 2. J'ai pas trouvé que ça mérite.
C'est dur.
Ouais, mais je trouve que globalement, ça mérite pas tout à fait la moyenne, quoi. C'est hyper prévisible, comme l'a dit Tonton. Et prévisible et mauvais, parce qu'il y a des trucs prévisibles qui sont bien, des fois. Mais là, bon, bah, par exemple, voilà, les filles en intro, là, où. Ou Shane qui évite le match par un espèce de truc pourri. Ouais, non, moi je mets 2. Je suis dur, mais je mets 2. Je mets mon top aux Européens. Hein. L'Europe d'abord, l'Union Européenne, voilà, l'Écosse. Et l'Écosse indépendante, s'il vous plaît. Et puis le flop, j'avais noté Braun ou le finisher d'Apollo Crews. On va mettre le finisher de l'Intercontinental.
Ouais, les flops, c'est bien.
Je reviens sur la note quand même, c'est que si je mets un peu plus de moyens, un peu plus de 2,75, c'est parce que quand même, moi j'ai trouvé qu'il y avait eu vraiment des bons matchs de catch, quoi. Le Drum, le Apollo Biggie, c'est dommage hein, qu'il soit gâché par un finish tout péraf, parce que c'était un bon combat. Et il y a quand même 30 minutes de main event, tout ça, quoi. Donc moi, finalement, la note baisse parce que justement, c'était ce manque de suspense et tout ça. Mais je pense qu'au niveau catch, je trouve que les mecs et les nanas nous ont produit un truc quand même plutôt de bonne qualité, quoi. Ça s'est quand même sorti un peu les doigts.
Tiens, Tonton, tu vas pouvoir répondre à la question. Pour le titre intercontinental, WrestleMania, tu vas solo entre Rose et Biggie ou un match à plein
avec... Non. Mais moi, j'ai déjà répondu à cette question. Ah non, non, moi, pour l'intercontinental, à WrestleMania, il me faut un match à multiplayer, baby.
Notre avis à Raphaël et moi, c'est plutôt en train de changer en disant « N'empêche que Biggie et Cruz en solo, ils peuvent faire quelque chose. »
Ah, moi, je reste sur un multiplayer. Moi, okay. Je veux un ladder match, je veux un fatal four-way ladder match ou un quelque chose dans ce style, quoi. Mais moi, Biggie Apollo, ça me suffira pas pour l'intercontinental. Ça suffira pas pour remplir.
Allez, pencher ta soif.
Ouais, exactement. Ouais. Il me faut plus que ça.
Moi, je le sens plus pour les tag teams ou pour le US, hein, cette match.
Le US, pourquoi pas. S'ils n'utilisent pas Sheamus pour le US, dans ce cas-là, qu'ils mettent une échelle pour au moins. De toute la double de la low card de ricocher tout seul.
On verra bien. Moi, j'ai l'impression que il y a moins de monde en mid card à SmackDown pour faire un match à échelle. Enfin, si on peut foutre Nakamura ou d'autres mecs, mais alors qu'à Raw, c'est plein, le roster est plein, donc on trouvera bien de quoi faire avec Riddle. Qui c'est qui pourrait y avoir? Kofi,
Ricochet, Drew Gulak, Arthur.
Oui. Voilà, exact. Ah oui, mais oui. Bon, vous me pardonnez, hein, j'ai complètement oublié de raconter ce segment où le vendeur de...
Non, raconte-le pas.
D'échantillons gratos des déodorants est devenu champion 24-7 pendant 30 secondes. Voilà, c'était très drôle. Mais Artruf l'a récupéré, c'était formidable. Et puis il y a Tozawa qui passe pour un con. T'as bien aimé ça, Tonton, tu l'as vu?
J'ai pas entendu la fin, en fait.
Je parlais du magnifique segment du titre 24-7 qui a été gagné par un vendeur déodorants.
oui, exact. Ouais. Ah oui, non, mais là, ils savent même plus vraiment quoi faire avec le 24-7. Hein, donc,
bon, heureusement. Du placement de produit.
La pub, hein. C'est.
Oui, voilà. Exactement, ouais. Du bon placement de produit comme il faut.
Donc, je pense que le prochain détenteur du titre, ça sera une figurine Mattel qui va tomber sur un trou. Ou un sneakers. le vieux de KFC, là, l'espèce de papy, là.
En plus, c'est Ziggler qui fait KFC, donc ça devrait aller. Hein. Non, ou ce sera peut-être des gens des boîtes d'intérim, là, je sais pas quoi, là.
Manpower. Ouais. On peut tout imaginer, effectivement. Oh, ça va être Hulk Hogan, ça va être très drôle. Ah ouais, c'est le manière.
Qui a serpillé par Titus, et voilà.
Eh, c'est magnifique. Bon, les amis, on a fini. C'était le dernier pay-per-view avant WrestleMania. C'était Fastlane. C'était formidable ou pas. En tout cas, on était unanime sur la performance européenne. Bravo, bon match, les gars. Et j'espère que vous avez apprécié cette analyse. Dites-nous dans les commentaires déjà ce que vous avez pensé du pay-per-view. Vos tops, vos flops, vos notes, vous connaissez, hein, les copains. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire si vous nous avez écoutés sur YouTube. Hein, c'est le meilleur média pour avoir des commentaires. Et puis des petits likes et puis s'abonner. Mais sinon, il y a PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Vous pouvez nous télécharger, nous écouter dans les transports en commun sans problème en allant travailler. Vous pouvez venir nous parler sur le Discord. C'est là qu'on fait nos pronostics notamment. Et puis, Twitter, Ça, c'est Tonton Chris et Ringside, Instagram, Facebook. On est présent. Catch up. Ben, je vous remercie d'avoir été présent pour cette chronique. Je remercie Papy qui était là dès le début. Ça va, Papy? Merci beaucoup, Papy, pour ta présence. Ben,
merci, Raphaël, pour ton hosting. Et puis, hashtag Sheamus à WrestleMania. Moi, je maintiens.
Hashtag Sheamus à WrestleMania. Il est arrivé en déboulant dans les vestiaires. Tonton Chris, on ne l'avait pas attendu. C'est un peu de notre faute. Mais il est toujours fidèle au rendez-vous. Merci d'avoir été là, Tonton, de t'être libéré.
Ah, merci à toi, Raphaël. Merci, Papy, d'accueillir un tonton à la bourre. Je fais un petit featuring, en fait, quoi.
Ben voilà. Eh ben, écoute, featuring Tonton Chris. Peuple de catch-up, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Raw, SmackDown, des bastons jusqu'à ce que ça disparaisse. Et puis, WrestleMania, très bientôt. Donc, restez connectés. Allez, bonne soirée, tout le monde. Merci pour votre écoute. Ciao, ciao.
Salut à tous.
Salut Papy, salut Raphaël, yeah. Salut Papy, le gâteau. J'ai plus de voix.
Qu'est-ce qui se passe? T'es cassé la voix.
Voilà.